écoute, merci. On se quitte avec le dernier morceau de ta playlist. Je te laisse le mot de la fin pour conclure cette émission.
Eh ben, merci à toi. Le mot de la fin, ça va être juste une grande continuité. Hein. C'est comment on fait avec tout ça. Et ça va sûrement recommencer.
Merci Rosalie pour ce temps précieux que tu nous as accordé.
Merci à vous de m'avoir invité parce que voilà, c'est chouette, je suis contente de venir présenter ce projet.
Alors est-ce que Glouteron, c'est une tentative de se débarrasser de ses pensées ou plutôt d'apprendre à vivre avec ?
C'est plutôt d'apprendre à vivre avec, parce que se débarrasser, je sais pas trop comment on fait. Voilà, comment on fait avec, c'est le bon terme, je crois.
Glouteron, alors c'est vrai que c'est un mot étrange. Moi, avant de préparer l'émission, en fait, je savais pas du tout ce que c'était. La lampoure de Glouteron commune, j'ai découvert que c'était une plante à fleurs de la famille des Astéracées. C'est une plante qui s'accroche partout. C'est un peu comme des pensées qui collent au cerveau, qui s'agrippent à nous, en nous. Comment est arrivé ce titre ?
Ce titre, il est arrivé de la même manière que j'ai écrit en fait les textes qu'on entend dans ce documentaire. En fait, c'est des moments où moi je traîne comme ça autour des berges du Tarn, puis dans les sentiers. Et là, je rencontre cette plante. En faisant des recherches, je vois qu'elle s'appelle lampourde, mais je vois qu'elle a aussi un nom, qui est le glouteron. Et je trouve ça, ce nom m'inspire parce que... Il parle, quoi. C'est le glouton, le glouteron.
Voilà,
et que du coup, c'est un peu un moment où j'ai envie de travailler la narration de tout ça, de jouer sur les fables et sur ce côté un peu de ce qui nous effraie.
Un imaginaire un peu presque animal, de monstre, glouteron. On imagine quelque chose d'un peu vorace qui dévore. Ouais, ce truc qui peut effrayer, en tout cas, quoi.
C'est l'esprit envahisseur, en fait. C'est l'esprit envahisseur qui vient nous prendre.
Évidemment, avec cette symbolique autour des prétendues mauvaises herbes, comme quelque chose qu'on voudrait arracher mais qui repousse toujours, qu'on imagine prétendument inutile mais qui possède malgré tout une forme de beauté, voire d'utilité.
Ça vient faire une métaphore avec ça, voilà.
Ces fameuses pensées envahissantes qui sont à la fois intrusives, répétitives et chargées émotionnellement. Est-ce que tu pourrais dire de quoi il s'agit exactement ?
Alors de quoi il s'agit exactement ? C'est compliqué à mettre des mots exacts. Surtout que moi, je ne suis pas rentrée dans le domaine médical pour un peu faire la genèse du projet. Mmh. C'est un moment où j'écris une fiction à la base sur l'envahissement psychologique parce que c'est quelque chose qui me traverse. Je cherche un peu la figure de l'envahisseur. Et cette fiction, je l'écris des années, enfermée chez moi, un peu en huis clos comme ça, un peu en asphyxie. Et à un moment, en creusant ce rapport à l'envahissement, je tombe sur le mot rumination mentale. Et à ce moment-là, mettre ce mot-là sur ce que je vis, ça me permet déjà de pouvoir en parler. Et donc après, d'aller enregistrer des gens. Et de sortir du coup de mon huis clos qui était insoluble en fait. Et du coup, quand je vais enregistrer des gens, je me rends compte qu'on est beaucoup à vivre ça, qu'on ne met pas tous la même chose derrière. Et voilà, je fais le choix de laisser ce flou aussi. Et après, il y aura peut-être un deuxième volet qui essaiera d'être plus précis, mais pour l'instant, ça reste comme dans ce flou-là.
Et si tu es OK pour en parler, toi, concrètement, ça se manifeste comment, ces pensées envahissantes ?
Pour moi, c'est des pensées qui reviennent et qui tournent en boucle dans ma tête, où il y a souvent... où je revis des situations, où je revis des scènes, où je repense à... Ça, c'est la pensée, mais ça me colle. Ça me colle au sol, ça me colle... En fait, c'est des moments où ça prend tellement de place que le temps me file entre les doigts et que j'ai une certaine inertie qui s'ajoute à ça. Donc j'écris. La volonté de ce projet, c'est aussi de sortir de ça, de sortir de l'inertie. Ouais. Et c'est le fait d'être empêché, en fait, d'être paralysé par ça, d'avoir l'impression d'être dévoyé en fait, par ça, qui fait que je commence à aller enregistrer les gens.
En fait, c'est des pensées intempestives qu'on peut ressentir malgré soi, qui ne viennent pas de l'intellect, qui ne viennent pas de la réflexion, qui viennent d'un autre espace de soi, qui viennent du ça, et qui vous polluent finalement dans vos journées. Alors, qu'est-ce que c'est par exemple? Ça peut être contre vous, c'est toutes les pensées du côté de « tu n'y arriveras pas, tu es nul, tu ne vas pas être à la hauteur, tu ne feras pas ce que tu dis que tu vas faire, tu n'aimeras plus la femme que tu es en train d'aimer, tu n'aimeras plus l'homme que tu es en train d'aimer, le travail que tu fais, tu vas le perdre. » C'est toutes ces pensées-là, vous ne contrôlez pas, qui sont presque comme des pensées qui ne vous appartiennent pas et qui vous entrechoquent continuellement. Ça peut être aussi contre le monde, rien ne va marcher, il va se passer des choses dramatiques, ou par exemple vous êtes en train de traverser la rue et puis vous avez l'impression qu'un camion va venir et vous écraser, vous êtes en train de et vous avez l'impression que vous pourriez vous noyer. Tout ce panel-là de pensées, finalement, que vous ne voulez pas ressentir, que vous ne pensez pas, qui ne sont pas du tout liées à votre intellect et à votre réflexion, mais qui vous viennent.
Les pensées envahissantes, donc ça désigne des idées, des images ou des phrases mentales qui surgissent de manière répétée, difficile à contrôler. Elles s'imposent à l'esprit, souvent malgré soi, et peuvent tourner en boucle. Ce n'est pas forcément une pathologie, tout le monde en fait l'expérience, mais elles deviennent problématiques quand elles occupent l'espace mental au point d'empêcher de penser à vivre autre chose ou de vivre entre guillemets normalement. C'est chargé émotionnellement, c'est-à-dire qu'ils peuvent générer de l'anxiété par exemple, de l'incapacité, c'est un peu ton cas, de la culpabilité, de la honte, de l'inquiétude.
À différencier de la névrose qui est finalement issue de certains traumas de votre vie qui fait que vous réflexionnez dans ce sens-là. C'est-à-dire que penser que par exemple vous allez échouer à un test parce que petite par exemple on ne vous a pas renvoyé de regard positif et puis que donc du coup vous avez constamment l'impression que vous allez échouer, ça c'est névrotique, mais ce n'est pas les pensées obsessionnelles compulsives, ce n'est pas les pensées intempestives, ce n'est pas les pensées non définissantes. Là on est dans un autre chemin, on va dire névrotique.
Tout le monde est concerné, tout le monde vit avec soi-même et se parle à soi-même.
Oui. Après, moi, je peux pas parler à la place de tout le monde. En tout cas, les gens que j'ai interrogés, j'ai été voir des gens et je leur ai demandé, j'aurais posé deux questions. C'est quoi pour toi l'envahissement? Et voilà, tu peux me parler de tes ruminations mentales. À partir de ces questions, les réponses, elles ont jailli de ces questions-là.
Les mots sont très très forts. Je crois que je parle de sensation d'enfermement, comme si effectivement le cerveau, il reste bloqué dans ses boucles et qu'il rejoue une pensée sans parvenir à résoudre un peu, je dirais, le trouble du départ, et que ça peut s'apparenter parfois à des obsessions ou des scénarios qui se répètent sans qu'on les choisisse. Tu sais, c'est comme un bruit. Quand on est en extérieur, il y a plein de bruits qui sont présents, mais qu'on perçoit pas. Et d'un coup, par le fonctionnement du cerveau, on est capté par un son, il prend une réalité, alors qu'il était déjà là. La pensée, c'est peut-être un peu ça, quoi. Comment elle arrive en toi?
Moi, je sais pas comment la pensée arrive. Après, c'est... Oui, il y a des trucs comme on parle des choses émotionnelles qui nous marquent. Je me reconnais dans pas mal de témoignages. Au final, des gens qui parlent de présence d'une personne qui vient comme ça, on revit des choses. Il y a des personnes qui viennent nous parler. C'est des choses qui sont pas forcément problématiques au prime abord, mais qui nous prennent. Après, ce que je trouve intéressant dans les témoignages, c'est que c'est très varié, c'est très divers. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de cas comme ça. Voilà. C'est chacun a son vécu, et moi, c'est vrai que dans ce documentaire-là, je fais le choix de mettre en parallèle des témoignages de personnes. Donc, j'enregistre mes proches, et puis après, je vais aller voir les personnes du GEM. Et donc, du coup, mais dans mes proches, il y a aussi des personnes qui ont des vécus psychiatriques, des vécus de personnes psychiatrisées, qui sont en souffrance psychique. Dans les personnes du GEM que je rencontre, il y a aussi des personnes en souffrance psychique. Et il y a aussi des personnes qui sont pas en souffrance psychique, mais qui ont des vécus, des expériences. Et je fais le choix que les témoignages se rencontrent et dialoguent ensemble. Mais l'idée, c'est pas de dire qu'on vit tous la même chose. Pas du tout.
Et d'ailleurs, quand tu t'adresses et t'intéresses à ta famille, est-ce que pour toi, c'est dans un parcours un peu thérapeutique ou de compréhension te concernant toi? Parce que là, il y a un truc plus filial, peut-être, tu vois. Est-ce que tu le situes au même endroit, cette démarche?
En fait, moi, j'ai l'impression que tout ce projet-là, c'est cathartique, et tout ce projet-là, il est là pour me soigner, en fait, pour sortir de l'isolement, parce qu'en fait, sortir de l'isolement, c'est déjà une grosse part, ça fait descendre, en fait, ça fait descendre les choses, et donc c'est pas que ma famille, mes proches, il y a aussi des amis très proches, les personnes du GEM, c'est pas des personnes qui vont moins me soigner que ma famille, c'est pas ça du tout, d'ailleurs... Quand je rencontre les personnes du GEM, c'est eux qui donnent les solutions à la fin. On sent qu'il y a une vraie expérience de ce que c'est les ruminations mentales et que du coup ils ont déjà des billes et donc une vraie connaissance. Et en fait c'est ça qui m'intéresse. C'est pour ça que je vais voir les gens du GEM.
Dans les témoignages, il y a quelque chose qui revient et qui m'a aussi surpris, c'est, j'aimerais bien que tu nous en parles, c'est ce que ça fait au corps. Parce que là, on parle effectivement de rumination mentale, mais ça a une implication concrète, incarnée, puisque ça crée de la fatigue, de la tension. Quelqu'un parle de respiration aussi, qui se bloque, de tremblement, de transpiration, et que d'un coup, cet envahissement-là devient palpable. En fait, c'est le corps aussi qui doit surréagir et l'accepter ou pas. Mais en tout cas, le corps fait partie aussi du problème.
Et complètement. Enfin, et quand on parle d'inertie, il y a l'inertie du corps aussi. Tout d'un coup, le corps qui se fige. Quand on a des ruminations qui déclenchent de l'angoisse ou de l'anxiété ou qui nous empêchent de respirer, justement, en fait, ne pas respirer, ça amène des choses dans le corps. Ça bloque des endroits et ça peut générer des pathologies physiques, en fait. Enfin, après, le corps et l'esprit, c'est très complexe. Tout est possible, en fait.
Et puisqu'on est des corps parmi d'autres corps, qu'est-ce que ça fait par rapport aux autres ? Comment ces modifications impactent ton rapport aux autres ?
Je pense que ces pensées-là, quand on a des ruminations mentales, l'autre, c'est compliqué. Vivre avec l'autre, avec les autres, c'est compliqué. Après, ça vient aussi du fait que c'est complètement tabou. Après, je ne sais pas si c'est le terme tabou, mais c'est juste, on n'en parle pas. Mmh. On n'en parle pas alors que ça touche tout le monde. Pas au même degré. On ne peut pas dire que tous les vécus sont pareils. Les vécus sont vraiment très différents. Il y a des personnes en souffrance psychologique qui vivent des choses vraiment extrêmes et très dures où ils ne peuvent pas s'en sortir seuls. Mais tout le monde peut être touché par ça. Pour moi, le fait de pouvoir en parler, ça permet justement de faire avec les autres. Se dire, il se passe ça. Et si je peux mettre des mots dessus, si je peux te le dire, du coup, on peut partager un espace. Ça fait redescendre, en fait. Je sais pas.
Aussi sur autre chose, c'est le rapport particulier au temps. Tu disais que tu revivais des scénarios, alors peut-être tu ressasses un passé, on anticipe des catastrophes futures. Toi, quand tu as décidé d'écrire, c'était aussi pour parler d'un temps intérieur.
Clairement, moi, quand je décide d'écrire dessus, c'est pour faire descendre les pensées. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est de se dire, en fait, là, ce qui tourne dans ma tête, je vais le mettre sur le papier. Pour moi, l'écriture, c'est comme la lecture, en fait, mine de rien. C'est des endroits où les choses se posent. C'est des endroits où je me soigne.
L'écriture matérialise un petit peu, d'un point de vue même visuel, quelque chose qui ne l'est pas qu'on sait d'en penser.
Pour parler de moi, ça me permet de mettre à distance des choses. Déjà, ne plus les avoir dans la tête, les avoir sur papier, pouvoir les relire, ça les met à l'extérieur. Ça ne les arrête pas complètement, mais c'est un temps où on prend le temps pour se poser, je sais pas.
Ouais, puis c'est aussi peut-être un protocole de care que tu as inventé pour toi, qui te fait du bien. Et justement, comment on apprend à construire des refuges mentaux ? Est-ce que tu as entendu, par exemple, d'autres façons personnelles de se protéger ?
Il y a une personne qui parle de respiration, il y a une personne qui parle de mettre les mains dans la terre, de focaliser, d'aller faire son jardin... Et voilà, c'est des personnes que j'ai rencontrées au GEM qui parlent de ça. Après, je pense qu'il n'y a pas de méthode. C'est chacun qui va trouver sa méthode. Il n'y a pas de solution. Et puis, ça dépend. Voilà, encore une fois, ça dépend de ce qu'on vit. Je ne prétends pas du tout avoir des solutions pour des choses qui sont en plus très différentes selon le parcours psychiatrique ou la souffrance psychologique qu'on a.
Mettre la main dans la terre, c'est vraiment s'ancrer, quoi, s'implanter... au plus loin de ses pensées, peut-être
Oui, c'est ça. Il y a une très bonne amie là qui n'est pas dans le documentaire, mais qui vient de me parler de mettre les mains sous l'eau.
Toi, toi, tu as fait le choix volontairement de jamais pathologiser, de basculer sur le côté médical. C'est difficile de trouver l'équilibre entre être bien chez soi et être enfermé chez soi. Je sais pas, pour moi, ça parle aussi de ça. C'est où tu vas trouver du bien-être.
Ah oui, l'équilibre, il est compliqué. Ouais. C'est des moments de rumination, c'est des moments où moi, je suis pas très bien. Les personnes que je côtoie peuvent provoquer des ruminations. Du coup, j'ai besoin d'être avec des personnes avec qui je peux parler.
Là où je voulais arriver, c'était justement au GEM. Voilà, des lieux où tu peux trouver cet équilibre entre la parole et l'écoute. Donc on arrive dans le GEM de Gaël.
D'être né, le chemin est si beau du berceau au tombeau. J'ai perdu mes lunettes, ça va être la fête. Les soldats sont partis couverts de confettis. Le temps est un bateau, la terre est un gâteau. Jardin, tenons-nous par la main. Le chemin est si beau du berceau au tombeau. Nous nous promènerons dans l'odeur du goudron. Dans les papiers qui traînent, blancs comme des migraines, blancs comme des mâles blancs près des chantiers dormants. Gavons-nous de beignets, de frites et de poulets. Le chemin est si beau du berceau au tombeau. Nous irons voir flamber la ville tuméfiée. La vie est une foire, j'ai mis ma robe en moire. Mon frère est un raté car il est décédé. Allons-nous dévorer dans les hôtels meublés. Nous aurons des mégots au fond du lavabo. À l'aube, les blessés cesseront de tousser. Nous aurons un bébé, nous l'entendrons pleurer comme de l'eau qui boue. Les enfants sont tous fous. Allons-nous promener, quel bonheur d'être né. Le chemin est si beau du berceau au tombeau. J'ai perdu mes lunettes, ça va être. Les soldats sont partis, couverts de confettis. Le temps est un bateau.